Vous écoutez France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Aujourd'hui, Platon.
À la suite du philosophe, on a souvent dit que là, tout l'ensemble de la philosophie, de la théologie occidentale, était comme un ensemble de notes en bas de page de l'œuvre de Platon. Et c'est pour ça qu'il est certainement important de revenir à l'œuvre même pour savoir exactement ce qu'elle nous dit, au-delà des imaginations, des fantasmes que nous nous en sommes faits. Et de ce point de vue-là, nous avons eu, aux éditions Flammarion, une nouvelle traduction des œuvres complètes de Platon, y compris d'ailleurs ce dont on n'est pas très sûr, à savoir les fameuses lettres de Platon, qui révéleraient un enseignement, disons, ésotérique par rapport à l'enseignement public, qui était celui donné dans les dialogues, et qui en même temps permettent d'avoir une vue sur la biographie même de Platon. Et il nous a semblé important de réfléchir, justement, à la fois sur les conditions de production de cette œuvre et de ce qu'elle comporte véritablement et de ce qui aura marqué l'ensemble de la réflexion de notre culture. Et pour nous accompagner dans ce voyage, nous avons avec nous Luc Brisson, directeur de recherche au CNRS, qui a dirigé cette traduction nouvelle de la totalité des œuvres de Platon, qui en même temps, on le sait, dirige la traduction de l'ensemble des Énéades de Plotin, et puis Jean-François Prado, qui est professeur à l'Université Lyon 3 Jean Moulin.
Le centre de gravité de la pensée platonicienne s'est transformé après la Seconde Guerre mondiale. Avant, on considérait Platon essentiellement comme un philosophe, c'est-à-dire comme quelqu'un qui avait développé un système de concepts et un système de notions. Alors que maintenant, on prend beaucoup plus au sérieux les premiers dialogues de Platon, qui étaient considérés comme des œuvres strictement littéraires, rappelant la vie de Socrate, et on a retrouvé dans ces premiers dialogues la philosophie à ses débuts, la philosophie à son avènement, c'est-à-dire qu'on retrouve un Socrate qui, dans les rues d'Athènes, essaie de vérifier que les gens qui prétendent avoir un savoir et qui prétendent le transmettre, c'est-à-dire essentiellement les hommes politiques, les sophistes, les poètes et les artisans, ont ce savoir ou non. Et donc, il les interroge sur ce qui fait leur vie et sur la validité de leur vie comme transmetteurs de savoir. Et c'est ce qu'on a appelé... C'est effectivement un enregistrement, en quelque sorte, mais non fidèle, de la pratique socratique qui mène au fameux thème des modes de vie ou du mode de vie, de la philosophie comme mode de vie, et non plus de la philosophie comme système de concepts ou de notions.
Lorsque vous parlez de la philosophie comme mode de vie, Luc Brisson, Est-ce que vous vous rapprochez de thèses comme par exemple celle de Pirado? Enfin bon, Pirado, c'est la philosophie comme exercice spirituel. Mais est-ce que vous, à ce moment-là, vous ne rejoignez pas certaines propositions de quelqu'un comme Friedrich Nietzsche, qui disait dans les rues d'Athènes, uniquement à voir comment il marchait, comment il parlait, comment il s'habillait, on savait si quelqu'un était platonicien ou aristotélicien?
Oui, je pense que cette idée de Pierre Hadot concernant la philosophie comme mode de vie ou comme exercice spirituel a comme premier ancrage Socrate, qui dans l'Apologie, lorsque son procès vient de se terminer et qu'il vient d'être condamné à mort, déclare qu'une vie qui n'est pas soumise à examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et pour Socrate, une vie soumise à examen, c'est une vie doit se définir par rapport au savoir, qui n'est pas seulement un savoir technique, scientifique, mais aussi un savoir beaucoup plus général qui touche l'éthique et la politique.
Mais alors, c'est aussi l'une des questions que l'on se pose de Luc Brisson, et j'en étais à nouveau frappé en consultant cette nouvelle traduction, c'est que souvent, on se demande, est-ce que c'est vraiment Socrate qui parle ou est-ce que c'est Platon qui parle à travers Socrate?
Je pense que ce n'est pas possible de le savoir. Il est inutile de chercher le Socrate historique. Le Socrate historique a bien sûr existé. C'est au-delà de toute contestation possible et imaginable. Mais ce qu'on a de Socrate, ce sont des images de Socrate. Et ces images sont diverses. Il y a celles que Xénophon a données de Socrate dans les Mémorables. Xénophon, c'était un aristocrate, un militaire. Il y a Platon, l'image que Platon en a donnée. Il y a l'image qu'Aristophane en a donnée. Par ailleurs, Socrate, dans son entourage, avait des gens qui allaient devenir des cyniques, d'autres qui allaient estimer que le plaisir était le but de la vie. Je pense qu'il ne faut pas, en tout cas c'est ma position, chercher à découvrir un Socrate historique, mais essayer de voir quelle image Xénophon, Platon, etc. donne de Socrate. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Et pour Platon, c'est aussi ça qui est vraiment important. C'est l'image que Platon donne de Socrate. Et c'est une certaine façon de s'interroger sur le sens de la vie. Et c'est d'une certaine façon aussi une définition de la philosophie antérieure à cette définition de la philosophie comme système de pensée, système de notions, système de concepts.
Dans la récollection que vous faites des œuvres de Platon et de Luc Brisson, on voit que vous faites figurer les fameuses lettres. Au sujet duquel on sait qu'on a beaucoup discuté, et lorsqu'on les lit, évidemment, je dirais, ça change l'angle de lecture.
Oui, la question étant de savoir, parce que si ces lettres sont authentiques ou non. En ce qui me concerne, je pense que les lettres, la lettre 7 est très certainement authentique, la lettre 8 est probablement apocryphe, mais a été écrite tout de suite après la mort de Platon par quelqu'un qu'il connaissait très très bien. Ce qui est intéressant dans les lettres, c'est que les lettres constituent, ou la lettre 7, puisque c'est la seule que je considère comme authentique, constituent la première autobiographie qui nous est parvenue. Et donc, ça nous donne effectivement un éclairage sur le sujet ou le moi Platon, qui, de façon très étonnante, n'apparaît jamais dans les dialogues qu'il écrit. Je pense que Platon est cité deux fois, une fois pour dire qu'il n'était pas là, et l'autre fois, je ne me souviens plus très très bien pour quelle raison. Donc, l'œuvre de Platon est fondée sur l'anonymat. L'auteur disparaît, alors que dans la lettre 7, l'auteur se prend comme sujet. Mais la lettre 7 est une biographie, est une autobiographie très particulière. Si on la compare aux autres biographies qu'a étudié par exemple Lejeune il y a quelques dizaines d'années. Et cette autobiographie est une autobiographie qui prend le jeu platonicien comme sujet, mais qui n'entre jamais dans son intimité. C'est Platon en tant qu'acteur dans la cité, à Athènes ou en Sicile.
Alors, un gros problème qui se pose, Luc Bresson, puisque vous avez fait, vous l'avez suggéré, que l'œuvre de Platon, c'est, si l'on peut dire, la fondation de la philosophie, quand même, en tant que, sinon système fermé, mais en tant que type d'interrogation, si l'on peut dire, et c'est de se demander, justement, est-ce que Platon rompt radicalement avec ce qu'il a précédé, puisque vous savez qu'il y a tout un certain nombre de thèses, en particulier je pense soit à Dodds ou même à Giorgio Colli, selon lequel il y a quand même une sorte de filiation de la culture ancienne, et même éventuellement, si on pousse jusqu'au terme, d'une espèce de chamanisme indo-européen plus ou moins sous-jacent.
En ce qui me concerne, je pense que la philosophie, et surtout celle de Platon, n'est pas autonome. Elle s'enracine dans une tradition. Et donc, en ce qui concerne Platon, l'usage récurrent des mythes est une preuve de la chose. C'est-à-dire que Platon s'attaque à la mythologie comme fondement de l'éducation en Grèce ancienne. Mais il utilise sans cesse la mythologie comme source de principes, de présupposés, d'axiomes. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas séparer la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie chez Platon, d'une réflexion à la fois critique et admirative de la tradition mythologique, de la tradition religieuse au sens large. La religion est entendue, bien évidemment, dans un contexte grec et pas dans un contexte moderne, c'est-à-dire la religion comme culture, identité culturelle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments chez Platon qui peuvent se rattacher à la tradition de la mythologie grecque, qu'il s'agisse de la mythologie connue par tous, ou même de mythologies plus sectaires, comme l'orphisme, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avant Platon, il y a eu ce qu'on appelle des physicoi, des gens qui se sont interrogés sur l'origine et le développement de l'univers. Et ces penseurs étaient en rupture, eux les premiers, avec la mythologie, dans la mesure où ils refusaient que les divinités interviennent à leur gré dans le cours de l'univers. L'univers avait une structure, et cette structure se développait dans le temps pour fabriquer les êtres inanimés, les êtres animés et finalement l'homme, je ne sais pas ce que je dis un peu. Et donc Platon va là aussi s'inspirer d'eux en les critiquant. Et l'intérêt de Platon, c'est qu'il, me semble-t-il, c'est qu'il fait une synthèse entre les deux. D'une part, il accepte cette représentation de l'univers comme processus mécanique ou automatique que l'on retrouve chez ceux qu'on appelle les présocratiques, je préfère les appeler les physicoi, mais il va ajouter à cette représentation de l'univers, il va ajouter ce qui vient de la tradition mythologique, c'est-à-dire l'existence d'une divinité, mais d'une divinité qui ne soit pas mauvaise, qui ne soit que bonne, et qui, d'une certaine façon, va intervenir pour fabriquer l'univers, mais n'interviendra jamais de son plein gré, n'interviendra jamais en raison de sentiments, de haine, ou pour punir les hommes, pour changer le cours de l'univers.
Ça me vient à l'esprit tout à coup, mais se pose le problème, par exemple, du rapport de Platon à quelqu'un comme Parménide. Parce que Parménide, généralement, on le traite toujours comme un pur philosophe. On oublie que, quand même, Parménide est d'abord un poète.
Oui.
C'est quand même un poème qu'il écrit.
Il est aussi un poète, et c'est un poète qui écrit en empruntant ce qui en dit finalement aussi assez long sur la manière dont lui aussi, déjà comme un certain nombre de ce qu'on appelle les présocratiques, contestait la culture traditionnelle. Mais il l'écrit en hexamètre dactylique, c'est-à-dire qu'il emprunte précisément au style poétique dominant de la tradition pour écrire un poème qui va mettre en cause d'une certaine manière toutes les représentations des hommes, dit Parménide, et pour leur substituer une autre voie de recherche de la vérité. Mais donc le deuxième pan aussi bien de l'œuvre platonicienne, eu égard à la poésie au sens large et à la culture, c'est précisément de proposer une nouvelle poésie, de dire voilà maintenant dorénavant dans quel cadre politique on va pouvoir écrire des œuvres, les représenter et leur faire jouer leur rôle pédagogique. Et là on se rend compte aussi bien que Platon est aussi un écrivain, et peut-être d'autant plus qu'il est sans doute à son époque le plus grand prosateur qui soit en Grèce. Donc il y a ce projet de créer une nouvelle poésie, c'est-à-dire une nouvelle pédagogie, et de faire une œuvre littéraire qui, d'une certaine manière, puisse se substituer au modèle ancien.
Comme Jean-François Prado le disait, les œuvres complètes de Platon ont été présentées pour... dans le but essentiel de faire lire Platon comme un auteur littéraire, comme un écrivain. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces œuvres complètes, il y a tellement peu de notes et des introductions si courtes. Donc on a voulu donner la priorité à Platon, écrivain, que l'on peut lire comme n'importe quel écrivain étranger, Dolstoï ou Dostoïevski, par exemple.
Si l'on suit ce que vous dites, Luc Brisson, apparemment il y a un certain nombre de questions qui surgissent, puisque vous dites qu'il faut quand même comprendre Platon dans le contexte religieux qui est le sien, étant bien entendu que la religion, effectivement, est la religion des anciens Grecs, pas du tout la religion telle que l'entend le christianisme, telle qu'elle nous a été léguée. Mmh. Et pourtant, on sait très bien que le procès qui est fait à Socrate, en partie, est justement d'être agnostique, pour ne pas dire franchement athée, et donc de détruire la religion classique. Et en même temps, ça pose des questions, forcément, je dirais, des limites de la raison. Parce qu'on voit très bien comment dans les dialogues platoniciens, enfin, d'ailleurs vous l'avez signalé, lorsque Platon n'arrive plus à s'expliquer selon les lois même de la raison, il passe au mythe.
Exactement. Donc je pense que, en ce qui concerne Socrate, mon interprétation de l'Apologie, dans l'introduction, j'ai donné à ma traduction dans Garnier Flammarion, j'essaie avec, je ne suis pas particulièrement original sur le sujet, j'essaie avec un certain nombre d'érudits contemporains d'expliquer que le procès de Socrate était avant tout un procès politique et pas vraiment un procès concernant les choses religieuses. En gros, Socrate avait eu comme dans son entourage des gens comme Alcibiade, qui était responsable des faits de Sicile en 412, et Critias, qui était le pire des 30 tyrans. Et je pense que c'est ce qu'on lui faisait payer. Et si on a utilisé ce thème de la religion, c'est parce qu'en 403, il y avait eu, pour arrêter la guerre civile, une loi d'amnistie, et qu'il fallait bien s'attaquer à Socrate d'une façon ou d'une autre. Et que, justement, ce sentiment que les dieux avaient puni Athènes restait très forte dans la société, et que c'était un excellent moyen d'attaquer Socrate. Et tout compte fait, quand on regarde le procès, on s'aperçoit que les premiers votes, le premier vote qui condamnait Socrate a été acquis avec une très faible majorité, parce que Socrate avait fait de la provocation pendant son discours, et que qu'il n'était pas sûr du tout, si Socrate avait voulu payer une amende, il n'était pas sûr du tout qu'il soit condamné à mort. Il aurait été condamné à payer une amende et à s'exiler quelque temps, et puis ensuite les choses seraient revenues dans l'ordre. Mais je ne pense pas que Socrate ait été condamné pour des raisons vraiment religieuses. En ce qui concerne Platon, vous avez raison de dire que, tout compte fait, Platon est une espèce de... Platon exprime une espèce de refus à l'égard de la religion traditionnelle. Parce que, pour Platon, le fait de réintroduire la divinité dans sa philosophie n'implique pas qu'on réintroduise les divinités antérieures. Il n'est pas question qu'un dieu tue... un collègue ou tue un être humain, viole la femme de son collègue ou viole une humaine. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le Dieu, pour Platon, est la raison, l'intellect, et cet intellect, c'est celui qui donne au monde sa permanence, sa régularité, qui donne à la cité ses lois, c'est-à-dire la distribution des différentes magistratures et les lois elles-mêmes, et qui en l'homme fait que l'homme se dirige en fonction justement de sa raison et de son intellect, et met sous la domination de cet intellect et de cette raison à la fois son thumos, c'est-à-dire son agressivité, son épithumia, c'est-à-dire son désir. Et jusqu'à un certain point, Platon, par rapport à la mythologie traditionnelle, est très critique. Mais, encore une fois, je le répète, il y a cet autre mouvement. Platon se rend bien compte qu'il n'est pas possible, à l'aide de la raison seule, d'expliquer l'univers, de diriger une cité et de mener une vie humaine. Et donc, il réintroduit la divinité à ces trois niveaux, mais par l'intermédiaire de l'intellect, par l'intermédiaire de la raison, et non point par l'intermédiaire de ces personnalités que l'on appelle les dieux.
Il y a une question qu'il faut se poser, me semble-t-il, Jean-François Pradeau, par rapport d'ailleurs à la manière dont souvent on interprète Platon, c'est son rapport à la poésie. Dans la mesure où on a l'impression quand même qu'il est adossé à tout l'ensemble de à toute la tradition de la poésie grecque, et en même temps, il rompt avec elle. Alors, il suffit de lire un dialogue comme le Ion, dans lequel on voit bien qu'à la fois, il y a cette échelle magnétique, et puis à la fois, le rhapsode, alors je sais bien que le rhapsode est du côté de la technée, mais le rhapsode est quelqu'un qui est plutôt du côté des sophistes que du côté de la philosophie.
Oui, non, mais il y a là une part considérable de l'entreprise platonicienne qui se joue autour de la critique du poète. Alors ça tient pour une part à ce que rappelait Luc Brisson, c'est-à-dire au contexte culturel et éducatif de l'époque. Donc on est en effet avec l'équivalent des manuels scolaires, c'est du Homère, du Hésiode. Et il y a ce qui tient lieu, dont on a du mal à prendre la mesure aujourd'hui, ce qui tient lieu de formation continue pour les citoyens, et c'est le théâtre. Donc Platon s'inscrit en faux la contre et propose, à la suite de certains de ses prédécesseurs, une critique de ce qu'on appelle, c'est assez impropre mais on comprend, au moins que ça désigne la forme d'éducation traditionnelle, mais il s'en prend à la culture homérique. Et alors ensuite, il y a son propre projet philosophique qui est aussi un projet pédagogique. Donc on critique la tradition homérique et le statut des poètes à l'époque, c'est-à-dire des éducateurs. Lorsqu'il s'en prend aux tragédiens, lorsqu'il s'en prend aux poètes, il va mettre en cause leur savoir et donc leur compétence, non pas tant à faire œuvre poétique qu'à faire œuvre pédagogique. Donc c'est un projet de critique politique qui se joue dans cette affaire. Il ne faut pas laisser l'éducation des citoyens aux poètes parce qu'ils n'ont pas la compétence savante. D'où dans les dialogues, cet effort permanent, dans Lyon, dans le Phèdre, pour montrer que le poète se prononce sur des sujets à propos desquels il n'a pas de connaissance véritable. Alors dans Lyon, ça prend ce tour satirique qui avait agacé considérablement Goethe et quelques autres. Dans La République, ça prend le tour de cette critique extrêmement sévère des tragédiens qui a horrifié des gens comme Popper au XXe siècle, qui disait « mais Platon s'en prend à la culture libérale et aux arts libéraux et à la littérature en général ». Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de viser ceux qui sont identifiés par les Grecs à l'époque comme les pédagogues.
Très souvent, les dialogues se terminent par des mythes eschatologiques qui racontent la destinée de l'âme après la mort. Et donc, on a vraiment l'impression que, avec la raison seule, on arrive à une impasse. Et pour trouver une solution, on est obligé de passer à un récit qui fait intervenir le plaisir ou la peur. Et encore une fois, les limites de la raison font que Platon sent l'obligation de passer du côté du mythe. Et donc ça, on le voit très bien dans le Gorgias, dans le Phédon. Dans le Phédon où Socrate qui va mourir n'a pas réussi à convaincre ses disciples qu'il ne mourra pas, et les disciples au moment où il va boire le poison pleurent, et alors ce qu'il fait c'est qu'il leur raconte un mythe comme à des enfants. Et donc on voit très bien que les limites de la raison, c'est-à-dire les limites de l'argumentation rationnelle, on arrive à un certain point, à certaines limites, et pour dépasser ces limites, on est obligé de passer à un autre niveau, qui est celui des mythes. Donc il y a un jeu perpétuel chez Platon entre la raison et le mythe. Et c'est ce qui, à mon avis, rend le personnage aussi intéressant.
Mais c'est cela qui me pose question, de sa manière, Luc Brisson. Je veux dire par là, est-ce que il n'y a pas l'appel au mythe chez Platon, d'une part, évidemment, souligne des apories de la raison, le moment où la raison ne peut pas résoudre elle-même le problème qu'elle se pose, d'une certaine manière. Et est-ce que, de ce point de vue-là, il ne faudrait pas se dire que le mythe est de l'ordre de ce que j'appellerais le transrationnel plutôt que de l'irrationnel ? Le transrationnel, je veux dire, ayant éprouvé toute la raison, l'ayant traversée, le moment où on est obligé de dépasser la raison en l'ayant souverainement exercée, justement.
Oui, je pense que le mythe, chez Platon, n'est pas l'irrationnel. La raison a une puissance extraordinaire, mais elle a aussi des limites. Et dans la mesure où on veut utiliser la raison, il faut accepter ses limites. Et lorsqu'on a accepté ses limites, il faut passer à autre chose. Parce que si on veut rationaliser tout, on arrive à des catastrophes et on arrive à des impasses. Voilà. Et je pense que Platon en est très très conscient.
Jean-François Pradot, vous avez plusieurs fois, comme Jean-Luc Brisson d'ailleurs, prononcé les mots pédagogie d'une part, politique de l'autre. Et donc on a l'impression que Platon, de ce point de vue-là, est un bon Athénien de son époque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un rapport très très profond à l'organisation de la cité, parce que je pense que pour un Athénien de ce moment-là, je veux dire, l'organisation de la cité était vraiment un problème absolument capital. Et donc, et on a l'impression en même temps que, je dirais, la politique de Platon, selon sa vie, a varié, parce qu'il est quand même, par sa mère, d'une famille qui est quand même alliée aux 30 tyrans, qui a des moments où il est assez proche d'eux, qui a des moments où il est au contraire très, très éloigné. Et donc, il y a quelque chose qui est assez difficile à saisir.
Oui, les questions biographiques sont délicates parce qu'on manque d'informations, et ce qu'ont été les inflexions éventuelles des jugements politiques ou des engagements politiques de Platon sont tout simplement impossibles à connaître. Donc on ne fait des hypothèses qu'à partir des œuvres, et encore qu'à partir d'hypothèses chronologiques sur la rédaction successive des œuvres. Toute hypothèse qui reste extrêmement fragile. On sait que Platon, via l'Académie qu'il a instituée et qu'il a dirigée, a joué un rôle dans la vie politique athénienne majeur, puisqu'il a formé des cadres qui seront actifs dans la cité après lui. On sait que le projet de l'Académie, c'était également de former des dirigeants. Et on a des informations, celles que rappelait tout à l'heure Luc Brisson, dans la lettre 7, qui sont peut-être donc donné par Platon lui-même. Mais il écrit l'essentiel de son œuvre à un moment, donc après la guerre du Péloponnèse, après les épisodes tyranniques et oligarchiques, où il y a un débat politique institutionnel en pleine effervescence, et où les Athéniens, en particulier les Grecs en général, se posent des questions d'ordre politique et d'ordre éthique. Donc on a très très longtemps représenté le IVe siècle athénien comme une époque de crise et une période, disons, de décadence. Les historiens ont corrigé cette représentation erronée et ont montré qu'il y avait un véritable débat sur les institutions à choisir pour la cité, quelles étaient les meilleures et comment, au sein des cités, on devait former les citoyens. Donc Platon prend part à ce débat. Et il prend part à ce débat en formulant un certain nombre de critiques sans réserve aucune, et elles sont assez nourries dans son œuvre, à l'encontre du régime démocratique, et en proposant donc une forme d'aristocratie par le savoir.
Et c'est la raison pour laquelle l'enseignement est tellement prend la première place. Voilà. C'est-à-dire enseignement et politique chez Platon, c'est presque synonyme. En fait, diriger une cité, c'est former les citoyens. Voilà, c'est ça le lien, la raison pour laquelle le lien est tellement fort entre la politique et l'éducation.
Oui, mais c'est là justement où je me pose la question, est-ce que cette réflexion n'est pas typiquement celle d'un Athénien de son époque, après tous les déboires qu'a connu Athènes, effectivement, après cette réflexion sur le régime politique, et est-ce que cela nous parle encore aujourd'hui ?
Alors, s'agissant de l'épisode de l'époque athénienne, c'est un débat et on a d'autres contributeurs au débat, donc on peut apprécier la spécificité de l'intervention platonicienne dans ce débat par rapport à eux. On a des textes comme Il est anonyme, qu'on appelle comme le traité du vieil oligarque, qu'on appelle ainsi, parce qu'il prend des positions pro-oligarchiques hostiles à la démocratie, en expliquant et en raisonnant dans les termes de distinction de groupes sociaux. Il ne faut pas laisser prévaloir le démos parce que le démos est un culte, il faut que les gens de bonne souche gouvernent. Vous avez la génération suivante peut-être, le milieu socratique avec Xénophon, on a aussi des traités d'Isocrate. Donc on a quelques pièces de ce débat et là on peut prendre une mesure de l'originalité et sur certains points de la radicalité de Platon. Platon c'est tout de même quelqu'un, et ça c'est intéressant aujourd'hui pour le coup, c'est quelqu'un qui... fonde toute sa cité idéale, de type aristocratique, sur l'exigence que tous les citoyens soient formés et reçoivent une éducation, hommes et femmes, que tous les citoyens le soient, c'est-à-dire là aussi hommes et femmes. Chose absolument invraisemblable dans les deux cas à l'époque, où il n'y a rien qui ressemble à une éducation de tous les citoyens, et il n'y a rien qui ressemble, bien entendu, à une forme de citoyenneté pour le sexe faible. Donc dans les deux cas, on a des propositions qui, à l'époque, devaient sembler complètement aberrantes.
Oui, mais c'est là en même temps où on a du mal parfois à s'y retrouver dans Platon, oui. Dans la mesure où, vous le dites, effectivement, il y a idéalement une égalité entre les hommes et les femmes, et d'autre part, lorsqu'il fait appel au mythe de l'autochtonie, on a l'impression que c'est une manière de mettre les femmes de côté aussi.
Oui, mais j'employais à dessein l'expression de sexe faible parce que lui-même signale qu'il y a tout de même des différences entre les sexes. Mais le fait d'octroyer la citoyenneté, enfin j'y insiste parce que c'est quand même quelque chose de considérable, d'octroyer la citoyenneté aux femmes dans la République, parce que les femmes appartiennent au groupe des gardiens, et le groupe des gardiens est celui au sein duquel on va former les futurs dirigeants. De droit, dans l'économie de l'argument de la République, on peut imaginer que des femmes... gouverne la cité vertueuse, la cité excellente de la République. Il en va de même dans les lois où tous les enfants sont formés à l'école de la République, pour ainsi dire.
Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on voit les interprétations modernes de Platon, je dis par modernes, celles qui ont été produites depuis une cinquantaine d'années, c'est que tantôt on a vu Platon accusé de ce que j'appellerais du proto-communisme, mmh. Et tantôt on l'a vu accusé d'être le père des totalitarismes modernes. Bon, alors, je sais bien que du communisme au totalitarisme, il peut y avoir des passerelles, mais enfin, on voit bien quand même comme, je dirais, Platon, apparemment, est susceptible de beaucoup de lectures.
Oui, c'est incontestable. Mais là, j'évoquais tout à l'heure l'ouvrage que Karl Popper écrit juste à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est dirigé pour partie contre Platon, mais aussi donc contre Marx et Hegel. La distinction, là, n'est pas faite, puisque, justement, le communisme... et le totalitarisme nazi sont renvoyés dos à dos. Mais oui, et au sein ces lectures plurielles, elles ont été menées au sein même de l'œuvre de Platon. Ces 20, 30 dernières années, il y a eu beaucoup de travaux qui ont essayé de faire justement la part, vous évoquiez la question de la chronologie, la part entre un Platon qui, au moment de la République, aurait été beaucoup plus autoritaire qu'à la fin de sa vie, ou adouci par les épreuves, il aurait conçu dans les lois une cité plus libéral et plus attaché aux libertés individuelles. Ce qui, quand on regarde les textes de près, est à tout le moins discutable. Mais cette multiplicité, si vous voulez, des lectures politiques possibles, elle est d'une certaine manière inscrite dans la diversité des arguments de l'œuvre.
Mais ce qui est intéressant, pour compléter ce que dit Jean-François Pradou, ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, il y a quand même un débat concernant le relativisme des valeurs. Est-ce que, donc, et c'est très étrange de voir comment on peut utiliser Platon comme, critiquant le relativisme des valeurs qui peut être attaché par un mot sophiste, et comment Platon essaie de proposer une cité qui soit marquée par l'unité et qui ne soit pas une unité conflictuelle. Maintenant, la politique, c'est la bonne gestion des conflits, alors que pour Platon, la politique, c'est la disparition des conflits. Et donc, on retrouve ce thème dans, dans ces dernières années, la question étant de savoir si le relativisme peut être accepté purement et simplement, ou si, au contraire, il faut arriver à une société beaucoup plus homogène. Dans un cas, on peut arriver à une espèce de totalitarisme, parce qu'on impose des valeurs qui sont les mêmes pour tous, indépendamment de leurs convictions, mais d'un autre côté, le relativisme absolu et pur aussi arrive à une espèce de totalitarisme, puisque arrive à régner ou bien la puissance de l'argent, ou bien la puissance militaire. Donc on trouve chez Platon, dans son ambiguïté même, un thème qui est celui de notre société.
Je pense à un mythe comme celui des deux chevaux et du conducteur de char dans le Phèdre sur la constitution de l'âme. Mmh. Bon, les travaux de quelqu'un, Bernard Sergent, ont montré comme ça renvoyait un très vieux mythe indo-européen et qu'on retrouve des images à peu près équivalentes dans le monde iranien et dans le monde indo-européen. C'est là où je me dis, on a l'impression que Platon rompt avec une certaine mythologie, mais qu'il va retrouver une mythologie encore plus profonde.
Oui, mais on pourrait aller plus loin encore en ce qui concerne la médecine, par exemple. Si vous regardez ce que Platon dit de la médecine, on s'aperçoit que chez Platon, il y a trois types de médecine. Il y a la médecine par les incantations, qu'on retrouve au début du Carmide, c'est la médecine des prêtres. Il y a la médecine par le couteau, c'est-à-dire c'est la médecine du guerrier. Et la médecine par le pharmacon, la médecine par le médicament, qui est celle des producteurs, celle des agriculteurs. Parce que le pharmacon, c'est vient des plantes. Donc, effectivement, je pense que Platon trouve dans la mythologie grecque, c'est-à-dire Homère et Hésiode, à la fois les points de départ de l'argumentation rationnelle et le moyen de dépasser l'argumentation rationnelle. Et c'est tout à fait normal, puisque à l'époque, la mythologie grecque, Homère et Hésiode, c'était ce à partir de quoi on apprenait à lire, à écrire, ce à partir de quoi on apprenait à composer un texte, et ce qui donnait à la majorité des gens qui allaient écouter les rhapsodes dans les concours, lors des grandes foires, ou qui allaient à la tragédie n'étant qu'une réinterprétation idéologique d'Homère et d'Hésiode, finalement, ça n'est que ça, la tragédie, comme l'a montré Vidal-Naquet et Vernon, de dire, ça n'est que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais le terreau, c'est Homère et Hésiode. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose de vraiment essentiel.
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que Platon, je dirais, couronne l'effort de ceux qu'on appelle d'habitude les présocratiques, ceux que vous préférez appeler les physicoïs, dans leur remise en question des dieux, et d'une certaine manière, justement, en les couronnant, il les dépasse et il réintroduit un divin, mais un divin autre que celui que le divin classique.
Je pense qu'effectivement, le mouvement est exactement celui que vous indiquiez, c'est-à-dire que Platon critique ses prédécesseurs, en réintroduisant la divinité, mais il donne à la divinité un sens radicalement différent de celle qu'elle avait dans la mythologie grecque. Et donc on se retrouve justement avec une espèce de réinterprétation d'un fond traditionnel très riche et qui vient de très loin, à un niveau qui n'est plus celui de la mythologie ou de la religion. qui est un niveau beaucoup plus rationnel, un niveau où la raison et la tradition se mêlent.
Mais alors, en même temps, se pose la question, Luc Brisson, de voir l'apologie, puisqu'elle vient quand même à plusieurs reprises sur la plume de Platon, l'apologie de la folie, de la mania, en tant qu'il le dit, c'est le bienfait de l'humanité d'une certaine manière, et comprendre là aussi dans le fait les quatre folies, elles sont toutes mises quand même sous l'invocation de, je dirais, de pouvoir surnaturel bien connu, que ce soit Dionysos, Apollon, etc.
Oui, mais il faut faire très attention, parce que c'est un point très important pour l'histoire du platonisme. Si vous relisez le Phèdre, dans le Phèdre, il y a une différence très... On commence par faire une différence très nette entre la folie humaine et la folie qui vient des dieux. La folie humaine, et on le retrouve une explication à la fin du Timée, où vient d'un mal fonctionnement du corps, ou même de l'âme. C'est très intéressant, parce que même l'âme, si on exagère sur un point ou sur un autre, peut fabriquer cette folie humaine. Cette folie humaine qui fait qu'on a un comportement qui est trop différent du reste des hommes pour faire qu'on puisse communiquer de façon normale. Donc cette folie humaine, on la laisse de côté. Et ensuite, on passe du côté de la folie divine. Et à ce moment-là, Platon distingue quatre types de folie. La folie poétique, la folie divinatoire, la folie des initiations, du mystère, et finalement la folie érotique qui correspond à la folie du philosophe. Donc, il ne met pas ces quatre types de folie sur le même plan. Donc, la folie poétique, divinatoire, mantique et mystérique se trouve du côté de ce qu'on peut appeler le mythe ou la religion. Donc, dans un cas, c'est le dieu qui communique directement avec l'homme pour lui donner des solutions. C'est-à-dire que c'est le dieu qui parle à travers le poète, qui parle à travers le devin et qui parle à travers l'initiant. Alors que, en ce qui concerne le philosophe, les choses sont assez différentes dans la mesure où c'est le philosophe qui, lui-même, par sa pensée, et c'est ce qu'on trouve dans le Phèdre, mais surtout dans le Banquet, va essayer de s'élever à un niveau qui n'est plus le niveau sensible, mais le niveau intelligible. Donc on a là, effectivement, un accès à la divinité qui se trouve du côté de l'homme. Alors que pour ce qui est du poète, du devin et de l'initiant, c'est le dieu qui intervient. Alors que pour la poésie, c'est l'homme qui essaie de s'élever...
Pour l'érotique, vous voulez dire?
Pardon?
Pour l'érotique.
Oui, pour l'érotique, oui. C'est l'homme qui essaie de s'élever. Donc, on passe d'un beau corps à de belles actions, à une belle âme et finalement à la beauté qui se trouve, on ne sait où, mais qui est la beauté véritable. Ce qui signifie qu'on a une représentation de la philosophie qui est rattachée à la mythologie, mais qui reste rationnelle. Avec Jean Blic, au 4e siècle après Jésus-Christ, là, tout change. Parce que Jean Blic, lui, dans le De Mysteriis, va confondre les quatre niveaux, et donc à ce moment-là, la philosophie elle-même devient un don de la divinité. Donc la philosophie devient une théologie. Mais ça, on ne retrouve pas ça chez Platon. On ne retrouve pas ça chez Plotin, on ne retrouve pas ça dans la tradition platonicienne jusqu'à Jean Blic. Et donc là, il y a un changement radical qui rencontre de l'école d'Athènes à partir du 4e jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ, mais plusieurs centaines d'années après la mort de Platon.
Oui, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, bon, je crois que vous avez tout à fait raison, et si je garde le thème de folie, si je l'aime bien, c'est de ça, parce que d'une part, Platon sait très bien qu'il y a ce que nous appelons aujourd'hui la maladie mentale, ce nom de folie. Il suffit de penser à une tragédie comme l'Ajax furieux, etc. Nous sommes vraiment de ce point de vue-là. Et puis la folie divine. Mais si j'ai bien compris, cette quatrième folie érotique est quand même placée dans le Phèdre sous le signe d'Aphrodite, qui renvoie directement au discours de Diotime dans le Banquet.
Oui, mais quand vous regardez bien le discours de Diotime dans le Banquet, si on prend Eros ou la beauté comme guide, c'est tout simplement parce que ça nous permet de passer d'un niveau à un autre.
Jusqu'à et donc, on en reste... la vision du beau, du beau et du vrai et du bien.
Oui, voilà. Donc c'est ça qui est très ambigu chez Platon. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette folie érotique, mais c'est une folie qui doit s'élever. Et donc, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la chose, mais je veux dire, et je pense que dans le discours de Diotime, dans le banquet, c'est tout à fait évident. Quoi.
Ce qui est intéressant tout de même dans le Phèdre et dans le banquet, mais c'est sans doute ça que vous aviez en tête, c'est que il y a deux rapports possibles à la beauté physique qui sont indiqués par Platon. Il y a des pages du Phèdre qui sont assez saisissantes là-dessus, où il dit que le point de départ de la philosophie ou de la débauche est le même, c'est l'admiration pour le beau corps du beau garçon. Et Socrate d'expliquer dans le Phèdre qu'en fait il y a deux attitudes possibles. Soit lorsque vous êtes ému par la beauté du jeune homme, vous avez envie de le saillir, dit Socrate, auquel cas vous sombrez dans la débauche. Soit vous vous dites que cette beauté-là ne s'épuise pas d'une certaine manière dans le corps du beau garçon et qu'elle a, elle a une existence indépendante du corps du beau garçon et que c'est la même beauté qui se manifeste donc dans les actions, les discours, et qu'on va finalement chercher à connaître elle-même. Donc le beau en lui-même, et à ce moment-là, on devient philosophe. Mais il y a l'expérience érotique de séduction qui est la même au point de départ. Et cela, en effet, dans la tradition philosophique, c'est quelque chose qui est estompé ou qui prend des cours finalement assez éloignés, notamment parce que la question de l'amour dans la tradition chrétienne est absolument première, elle est majeure, dans un tout autre sens.
Livre.
Dans les livres de cette semaine, j'aimerais d'abord m'arrêter sur la publication aux éditions Champion du texte de Michel Servet, sept livres sur les erreurs de la Trinité. Michel Servet, on se le rappelle sans doute, est ce médecin, si l'on peut dire, ou ce savant de la Renaissance, mort très jeune d'ailleurs, qui a découvert la circulation sanguine et auquel donc nous sommes extrêmement redevables du point de vue des progrès de la médecine. Mais en même temps, Michel Servet, comme tous les hommes de la Renaissance, était quelqu'un de profondément cultivé, quelqu'un qui connaissait parfaitement le grec, qui connaissait parfaitement l'hébreu et qui est pris dans la tourmente, si l'on peut dire, de la réforme qui est en train de voir le jour, à tel point d'ailleurs que par les catholiques, il va être brûlé en effigie dans la ville de Vienne, au sud de Lyon, et qu'il va finir tragiquement dans la Genève calviniste, dans la Genève donc protestante, supplicié à cause des thèses entre guillemets hérétiques qu'il soutient. Il mourra d'ailleurs simplement à l'âge de 42 ans. Et à travers ses livres sur les erreurs de la Trinité, on voit bien comment, d'une certaine manière, il anticipe ce qui deviendra la critique moderne, à savoir que, d'une part, il veut retrouver le texte original ou l'enseignement original du Christ, si faire se peut à travers le texte des évangiles, bien entendu, et en même temps, comme il essaie de contextualiser par rapport à la connaissance que l'on a de l'époque où s'est formé le dogme chrétien, et où particulièrement, on le sait, pendant des siècles, on a beaucoup disputé sur qu'est-ce que la Trinité, comment pouvait-on la définir, qui va aboutir au grand concile œcuménique que l'on connaît. Et de ce point de vue-là, on voit que Michel Servet, à l'époque, peut sembler complètement iconoclaste, dans la mesure où justement, à travers une critique textuelle d'une part, une critique historique de l'autre, on voit comme précisément, il va prendre des positions sur la Trinité qui sont en rupture complète avec les professions de foi, aussi bien de l'Église catholique que des Églises réformées qui sont en train de voir le jour. Je concède une personne du Père, une personne du Fils, une personne de l'Esprit-Saint. Et je reconnais le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Trois personnes en une déité unique. Voilà ce qu'est la véritable Trinité. Mais je préférerais ne pas utiliser un mot étranger aux Écritures, de peur que par hasard, cela ne devienne pour les philosophes du futur une occasion de se fourvoyer. Puisse être cette distinction blasphématoire et philosophique de trois êtres en un seul Dieu être éradiquée de la pensée des humains. En restant dans la même période, c'est-à-dire cette Renaissance si agitée et si bouillonnante, je voudrais attirer l'attention aussi sur la publication aux éditions du Cerf de l'Évangile de la Force de Bartolomé de Las Casas. En réalité, il ne s'agit pas véritablement d'un texte écrit par Bartolomé de Las Casas, ce dominicain qui a laissé son nom à la postérité par rapport à son évangélisation des populations des Nouvelles Indes, c'est-à-dire particulièrement du Mexique, mais beaucoup plus de quatre traités qu'il avait écrit précisément pour défendre un nouveau mode d'évangélisation qui ne soit pas celui de la force, qu'il avait écrit à cette occasion, et où ce sont des extraits qui nous sont donnés par rapport à cette conquête du Nouveau Monde et qui sont répartis selon quatre sections, ce que l'on pourrait appeler une théorie de l'évangélisation, la manière dont il faut porter la foi aux Indes. À travers les Indes, évidemment, il faut entendre les Indes nouvelles, telles que les a découvertes Christophe Colomb, c'est-à-dire en fait ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique, et puis des considérations sur la domination temporelle et mission spirituelle, et des considérations sur les rapports entre la guerre et l'Évangile. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on retrouve les textes des apports et des discussions de Bartolomé de Las Casas avec le docteur Sepúlveda, ce que l'on a appelé la fameuse controverse de Valladolid, puisque Bartolomé de Las Casas, un peu effrayé, si l'on peut dire, de la manière de se conduire des Espagnols et de la manière de se conduire de l'Église dans ces populations qu'elle essaie d'amener à la foi au Christ, on sait comme Bartolomé de Las Casas a beaucoup milité, s'est beaucoup battu en faveur de la reconnaissance du fait que les Indiens étaient des hommes comme les autres, qu'ils étaient doués d'une âme, et que donc on ne pouvait pas les traiter simplement par la force. À ce qu'avait allégué le docteur, en citant le chapitre 14 de saint Luc, « Forcez-les à entrer », il répondit que selon les saints docteurs, il ne s'agit pas là d'une contrainte extérieure, s'exerçant au moyen des guerres, mais qu'il faut l'entendre de la manière suivante. Vis-à-vis des gentils, qui n'ont jamais entendu parler de la foi, Dieu use d'une force intérieure au moyen des inspirations qu'il leur envoie. Et puisque nous sommes ainsi en train de tourner autour de l'idée que l'on peut se faire de Dieu et de sa manifestation dans le monde, je voudrais m'intéresser au texte assez court, en réalité, de Maurice Bellet, « Dieu, personne ne l'a jamais vu », aux éditions Albin Michel. Maurice Bellet, on le sait peut-être, est à la fois théologien et psychanalyste, ce qui l'induit à un mode de réflexion tout à fait particulier, où il s'inscrit dans la tradition de ce qu'on peut appeler la théologie négative. C'est-à-dire où il retrouve à la fois l'intuition qui était celle de quelqu'un de Maître Eckhart dans sa fameuse phrase « Et je prie Dieu de me désencombrer de Dieu », et où d'une certaine manière, le Dieu personne ne l'a jamais vu, Maurice Bellet l'emprunte à la première épître de Jean, que l'on trouve évidemment dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que son idée, c'est que l'on ne peut, et qu'un philosophe comme Kant l'avait déjà montré, que l'on ne peut ni prouver l'existence, ni l'inexistence de Dieu, que c'est donc d'un autre ordre que celui de la raison discursive. Et de ce point de vue-là, précisément, il s'inscrit dans tout le courant de l'apophatisme, dans tout le courant du néoplatonisme en même temps, c'est-à-dire que la réalité ultime, la source jaillissante, est de l'ordre de l'unité première, mais de l'unité même précédente, ce que nous, nous pouvons penser comme un, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'inconnaissable et que, d'une certaine manière, nous n'en aurons jamais saisi. Et donc, Dieu, personne ne l'a jamais vu, c'est un acte de foi pure, parce que, précisément, il restera toujours dans le mystère. Il arrive que quelqu'un crie, du tréfonds de l'en bas, vers ce qui n'a plus de nom ni de visage. Le cri monte du fond de ce puits, au-dessus duquel toute digne sagesse a su mettre la dalle du silence. D'autres traversent l'interminable désert de la grande soif. Rien, rien et encore rien, ce n'est même plus l'absence, c'est l'absence de l'absence. Enfin, pour compléter la pensée de Maurice Bellet, mais je pense que nous sommes dans le courant même de sa réflexion, je voudrais attirer l'attention sur le petit opuscule de Jean-Luc Nancy, sous le titre évidemment évocateur, et tout le monde comprendra l'allusion, « Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément » aux éditions Bayard. De quoi s'agit-il ? En réalité, d'une conférence que Jean-Luc Nancy avait donnée au Centre Dramatique National de Montreuil, et où il réfléchit sur, en fin de compte, qu'est-ce que l'amour ? L'amour qu'il comprend dans une perspective chrétienne, c'est-à-dire cet amour qui l'emporte sur tout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De ce point de vue-là, évidemment, nous sommes extrêmement proches de la prédication de saint Paul dans ses épîtres, et où il essaie de montrer que l'amour n'est pas de l'ordre de l'égotisme, ce n'est pas de l'ordre du narcissisme tel que l'avait défini la psychanalyse, et particulièrement quelqu'un comme Freud, mais qu'il s'agit de ce que l'apôtre précisément appelait la charité, c'est-à-dire d'un amour qui est entièrement ouvert à l'altérité, qui est accueil, qui est ouverture, et d'une certaine manière parie, en fin de compte, sur la force vitale qui nous emporte. L'amour n'est que cela, le rapport à la valeur absolue d'une personne. Toute la question et la difficulté étant que la valeur absolue de la personne est aussi son mystère absolu. C'est pour cela que l'amour est très difficile, qu'il est rempli de risques, de dangers, autant que de beauté, de force et d'ardeur.
Les livres aujourd'hui. 7 livres sur les erreurs de la Trinité de Michel Servet aux éditions Champion. L'Évangile de la Force de Bartolomé de las Casas aux éditions du Cerf. Dieu, personne ne l'a jamais vu, de Maurice Bellet chez Albin Michel, et Je t'aime un peu beaucoup passionnément, de Jean-Luc Nancy, aux éditions Bayard. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Luc Brisson et de Jean-François Prado. Recherche sonore Dominique Catroux, mixage Pascal Bénard, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.